BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Il est 10h, vous êtes en direct sur BFM Business, on est reparti pour les experts, c'est la seconde partie de l'émission avec toujours Pierre-Henri de Menton, directeur de la rédaction de Challenge, Gaël Sliman, président d'Odoxa et Christian Saint-Etienne, économiste, auteur de Trump et nous, comment sauver la France et l'Europe aux éditions Odile Jacob. On parlait de clash, c'est le clash entre Matignon et le MEDEF. Qui fait la une de l'actualité ce matin. Alors le MEDEF qui a envoyé la semaine dernière une missive au Premier ministre pour parler loi de finances. Évidemment, les chefs d'entreprise en ont ras-le-bol. Ça fait 2 ans, on en parlait en début d'émission, de la cacophonie parlementaire autour de du vote des différents budgets. Évidemment, à la fin, c'est l'entreprise qui raque, hein, et notamment les grandes entreprises avec la surtaxe de l'impôt sur les sociétés. Eh bien, le Premier ministre a répondu, et plutôt vertement, au patron du MEDEF, qui s'inquiétait de ses inquiétudes et qui demandait une règle d'or pour tenir les dépenses. À Matignon, on parle d'un courrier hors sol de la part du patronat Gaël Sliman. Est-ce alors, que pour vous, il est hors sol, ce courrier? Qu'on n'a pas le droit de s'inquiéter un peu
deux
de
éléments,
la mauvaise marche
on a fait
des budgets.
On a consacré notre sondage d'actualité, qui en général est un sondage politique qu'on fait avec Le Figaro et Backbone. On a consacré notre sondage à ce sujet-là et à cet échange. Alors, on n'avait pas encore le retour de kick de Matignon, mais on avait le message de Patrick Martin. Et les Français donnaient raison à Patrick Martin. Donc ça, c'est un premier élément. C'est-à-dire qu'ils donnaient raison, un, de se préoccuper de ces questions de budget et d'un certain sérieux, d'une certaine stabilité. Et deux, on a testé l'idée de la règle d'or budgétaire.
Oui.
Et on a une très large majorité de Français qui disent oui, c'est du bon sens. Donc, mettre dans la Constitution, imposer la règle d'or dorénavant dans la Constitution. Moi, je ne me prononce pas sur le sujet, mais c'est quand même un moyen aussi de limiter les marges de manœuvre des politiques. Et je vois dans la réponse de Matignon deux raisons. Un, vous rendez, si vous mettez en place une règle d'or budgétaire, vous rendez globalement les politiques beaucoup moins... Vous les privez d'un certain nombre de marges de manœuvre.
Et puis, vous limitez les dépenses, quoi. C'est pas un carnet de chèques à volonté sur le déficit.
Exactement, mais c'est génial quand on est politique de pouvoir faire ce qu'on veut, pouvoir cramer la, comment on dit,
cramer la caisse.
Et deuxièmement, il y a aussi cette idée que, il met le doigt là où ça fait mal, Patrick Martin, en montrant qu'il n'y a plus de pilote dans l'avion et que ce qu'on disait depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que depuis la dissolution, en fait, il n'y a aucun politique qui peut vraiment gouverner le pays et prendre des mesures sérieuses sur les aspects budgétaires. Et c'est pour ça que Matignon et que Sébastien Lecornu le renvoient dans ses buts.
Ça transpire un peu là. Bon, je ne veux pas dire, mais réponse de Matignon. Patrick Martin a écrit au Premier ministre sur le budget, mais sans faire aucune proposition sur le fond, ce courrier était hors sol, dénonce un proche du Premier ministre. Le Premier ministre qui répond au président du MEDEF, les modifications de procédure que vous suggérez sont largement dans les mains des assemblées parlementaires et non du gouvernement. Alors évidemment, le MEDEF a écrit au président de l'Assemblée nationale et du Sénat aussi. Ils ont reçu la même lettre, mais ça transpire la mauvaise foi, la réponse de
Matignon. Mauvaise foi, c'est surtout de la politique. On est dans la politique. Pour un gouvernant, c'est pas forcément très rentable, même si au Figaro, on trouve ça très bien, d'être dans la roue du MEDEF et du patronat. Autre chose, d'un point de vue économique, il faut savoir de quoi on parle, effectivement. La règle d'or, c'est plus personne ne fait la règle d'or. Il y a un pays qui le fait, c'est les États-Unis. Ça a été mis en place par Ronald Reagan, je crois. Et on arrive à des situations
avec le shutdown,
avec le shutdown ubuesque, si vous voulez, où on l'admet, les fonctionnaires sont plus payés, etc. Donc, est-ce que les Français sont prêts à ça? À voir. Et je note que le pays le plus vertueux, qui est l'Allemagne, qui est encore une fois le modèle, a complètement lâché prise. Il y avait pas de règle d'or. Il y a un système qui s'appelle le frein sur la dette, qui a été défait. Hein, le frein, il a été lâché. Et on est en train de le déficit public est en train de courir gentiment maintenant. Donc là aussi, on n'est pas non plus dans une situation unique. Il y a une étude de Goldman Sachs, je crois, cette semaine, disant qu'on va tenir, on va être dans les clous, notamment grâce au fait qu'on a le nucléaire et on a un matelas sur la facture énergétique.
Dans les clous, on va être à 5%.
On va être à 5%, mais oui. Ouais, voilà, mais on est quand même dans les clous, hein, ce qu'on a du mal à imaginer.
C'est plus, on est dans les
agences de rating. Les agences de rating, vous lirez à chaque fois.
On n'est pas pénalisé.
On
voit sur les taux.
On n'est pas dans une situation de panique. Encore une fois, on est en début de campagne présidentielle. On a donc voilà, c'est aussi on est dans la politique. Et en plus, il y a quelque chose qui a un petit peu agacé, j'imagine. C'est cette histoire de déjeuner avec Bardella, etc. Donc on est et surtout ce discours en disant. On va apprendre au RN ce que c'est que l'économie, ce qui est quelque chose qui est, à mon avis, pas très, très sérieux.
Christian Saint-Étienne. Bon, je vais faire plaisir à Raphaël Legendre en prenant le contre-pied total de ce que vient de dire Pierre-Henri de Menton. Alors, il se trouve que je suis chroniqueur aux Échos et ça fait au moins deux chroniques sur les quatre dernières années où j'ai écrit qu'il fallait une règle d'or. Sauf que j'intègre.
Vous faites plaisir, Christian, vous faites plaisir.
Sauf que, il faut un peu de subtilité. Alors, la règle d'or générale.
Rappelons ce qu'est la règle d'or et comment elle peut s'appliquer.
La règle d'or, c'est une disposition constitutionnelle qui, par exemple, dans le cas de l'Allemagne, c'était pas constitutionnel dans le cas de l'Allemagne, mais c'est une disposition constitutionnelle, si elle est dans la Constitution, qui interdit le déficit. Oui. Et qui donc oblige le gouvernement, face à des déficits, à prendre des mesures immédiates plutôt que de laisser le déficit se développer. Alors, généralement, quand on parle de règle d'or, on pense à une règle d'or générale sur l'ensemble des finances publiques. Alors, je pense effectivement que ça ne peut pas marcher. En revanche, je suis désolé, mais comme on est aux experts, moi j'ai proposé trois règles d'or constitutionnelles.
Non, mais il y en a déjà une qui existe pour les collectivités locales.
Voilà, sauf que là, c'est pas vraiment une règle d'or parce que ça ne porte que sur les dépenses de fonctionnement.
Oui.
Alors justement, je pense qu'il faut une règle d'or sur le budget de la protection sociale.
Oui.
Et là, c'est.
Je rappelle que c'est la moitié des dépenses publiques.
Oui, mais c'est une question fondamentale. Parce qu'on peut pas renvoyer. Parce que c'est quoi les dépenses de la protection sociale? C'est notamment les retraites et le remboursement des médicaments. Et on peut pas renvoyer le déficit correspondant aux retraites et aux dépenses de médicaments aux générations futures. C'est complètement cinglé. Donc, le déficit de la Sécu, il tourne à peu près à un point de PIB. Je pense qu'il faut effectivement une règle d'or sur le déficit de la Sécu.
C'est 25 milliards d'euros, un point de PIB. Là, on est un peu moins, mais c'est 25 milliards d'euros, le déficit de la Sécu cette année.
Donc là, je vais assez loin. Bon, qui est que je pense qu'il faudrait revenir à la semaine de 37 heures, ça fait 5% de hausse des salaires et au même moment...
Et donc plus de cotisations.
Donc au moment où on fait la règle constitutionnelle sur la Sécu, on donne 2 points de CSG à la Sécu pour qu'elle puisse respecter la règle d'or. Deuxième réglementation, il se trouve que j'ai eu une expérience d'élu local à la mairie de Paris, donc j'étais responsable du budget de la mairie, mais j'ai aussi fait des études sur ce sujet et j'ai lu les études de mes camarades. Quand vous regardez les dépenses des collectivités locales, elles ont une règle d'or sur les dépenses de fonctionnement, mais il se trouve qu'il n'y a rien sur les dépenses d'investissement et... À peu près 60% des dépenses d'investissement des collectivités locales, c'est juste de l'amortissement et renouvellement des réseaux. Donc là, je dirais aussi, il faudrait exiger que les collectivités locales couvrent par les recettes courantes et les dépenses de fonctionnement et les renouvellements de réseaux. Et la troisième règle d'or, qui serait assez lâche en fait, qui concernerait que l'État. Pourquoi ça serait assez lâche? L'idée, ça serait que l'État ne puisse pas avoir un déficit supérieur à 3 points de PIB, qui est censé être la règle européenne, mais qui en fait fait sens. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, l'État est le réassureur de tout le monde. C'est-à-dire que quand il y a un problème, c'est l'État qui fait l'échec. Donc l'idéal, ça serait que... À l'intérieur de la règle d'or de 3%, on dit que quand la croissance est positive, l'État doit avoir un déficit inférieur à 1,5 du PIB et qu'il ait une marge de manœuvre pour faire face au choc. Voilà. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus travaillé que simplement une règle d'or qui interdise purement et simplement le déficit.
Alors, excusez-moi, Christian, mais on est dans ça va être difficile à vendre, hein.
Oui.
C'est quand même une usine à gaz, si je puis dire, très compliquée. Mais quand on demande aux Français, En ce moment, par exemple, il y a un consensus, effectivement, il va falloir qu'on ait des dépenses d'armement de 2% du PIB, oui. Et même sans doute au-delà. Je rappelle que la Pologne, par exemple, est à 4%. On demande aux Français, oui, oui, bien sûr, il faut construire des nouveaux réacteurs nucléaires, c'est indispensable. Donc, si vous voulez, il y a un moment où il y a des priorités, il y a effectivement des problèmes qui se posent, qu'il faut résoudre, il faut bâtir sans doute une meilleure stratégie de l'État, mais... C'est pas en fixant une règle d'or et en se disant on va fermer les musées. C'est un peu ce que demande la règle d'or du MEDEF. C'est pas ce que vous dites, mais on est quand même
ces fameux critères
de Maastricht. Ils sont troués de partout maintenant. Oui. On essaie de distinguer les dépenses d'investissement de fonctionnement structurel, pas structurel. Mais le fait est que, alors, il y a un consensus maintenant, je pense, pour dire, on fera pas un nouveau quoi qu'il en coûte. Je pense qu'on a compris. Mais est-ce qu'on a besoin d'inscrire ça dans des textes? Moi, je ne suis pas persuadé.
Et alors, justement, je continue d'être en désaccord pour une raison pratique et totalement objective et ras de terre, qui est que dépenses d'intérêt sur la dette qui était à 20 milliards il y a 2 ans seront à 100 milliards en 2030. Mm-hmm. Donc, si on veut simultanément augmenter les dépenses militaires pour assurer la survie de la nation, si on veut avoir une politique énergétique avec un triplement des dépenses d'intérêt, ça veut dire qu'on va couper ailleurs. Donc, quand je dis qu'il faut une règle d'or sur la durée, c'est pour éviter la situation dans laquelle on se trouve maintenant de progression phénoménale des dépenses d'intérêt.
Il y a beaucoup d'argent quand même. Il y a beaucoup d'actifs financiers qui circulent. Il y a des réformes structurelles qui n'ont pas été faites. Par exemple, c'est très techno, mais l'union des marchés de capitaux européens.
Très important.
La défense,
on attend toujours.
Elle pourrait être financée sur dette, qu'un eurobond sur la défense. C'est des trucs évidents qui pourraient être faits. Mais en particulier sur la dette, il y a encore les poches, elles sont profondes.
Il y a de l'argent, c'est ce que vous nous dites, Pierre-Henri Bonton, ce matin.
Je pense qu'il y a un réel problème sur les dépenses sociales en France, mais on n'est pas au même niveau, si vous voulez. Il y a des priorités, il faut y aller assez vite.
Ce que je proposais tout à l'heure n'empêcherait pas de faire...
On vire la moitié des... Je ne sais pas combien, une dizaine de milliers de fonctionnaires pour pouvoir financer la défense. Et malheureusement, je pense que ce discours-là, il est assez présent dans le patronat.
Et en plus, on a, en plus de ce que vous venez de rappeler, l'un et l'autre, on a des demandes très fortes en matière de services publics aujourd'hui. Et notamment sur ce qui coûte le plus cher, c'est-à-dire en matière de santé. Et donc, globalement, je ne rebondis pas sur ce que vous disiez, Christian, sur les solutions. C'est deux choses, ce télescope, que je mesure dans nos sondages à longueur de temps. C'est à la fois une validation systématique par les Français, Pierre-Henri le rappelait, de toutes les dépenses supplémentaires qu'on pourrait faire sur tous les sujets légitimes du moment. La défense, l'investissement dans les énergies renouvelables, dans le nucléaire, dans ce que vous voudrez, plus une demande très forte de services publics en disant il y a deux services publics auxquels il ne faut pas toucher, c'est l'éducation et la santé, qui est à peu près ce qui coûte le plus cher à l'État. Et en même temps, des Français qui nous disent mais on a bien conscience que la dette, les déficits, c'est un problème et qu'il faudrait, pense-t-il, une règle d'or. Donc tout ça, ça fait une mécanique...
Sauf que quand on entre dans le détail, c'est un peu compliqué.
Un gloubi-boulga impossible, sachant que nous sommes dans la pire des années, puisque nous entrons en campagne électorale.
Et oui.
Là, on a notre baromètre politique du
il y a quelques jours. Je ne sais pas comment on fait, parce qu'il y a une soixantaine de candidats maintenant.
Il y en a beaucoup, mais du coup, on a 70% des Français, sachez-le, qui nous disent « mais ça y est, on est déjà dans la campagne présidentielle ». Donc pendant un an, on va être en campagne présidentielle, et comme nous vivons dans une 5e République avec une élection du président de la République au suffrage universel direct à 2 tours, eh bien, on est obligé de promettre n'importe quoi. C'est-à-dire que pendant un an, vous allez avoir un défilé permanent de promesses à peu près irréalistes.
Vous pensez que la contrainte budgétaire va être totalement balayée?
Non, c'est ça qui est formidable, c'est qu'on parlera, tout le monde parlera de la contrainte budgétaire. C'est-à-dire que tous les candidats diront, attention, le budget, parce qu'ils ont bien compris que ça préoccupait les Français, donc ils diront, et elles diront, que la contrainte budgétaire, c'est très important, ça ne doit pas peser sur les générations futures. Et en même temps...
La première sortie de Jean-Luc Mélenchon, candidat à la présidentielle cette semaine, est de dire que la dette ne pose aucun problème en France, alors, et qu'on nous ment.
C'est
monstrueux.
Non, mais c'est une exception quand même. C'est-à-dire que la plupart des autres partis politiques, il y a presque mieux. Le Rassemblement National, parce que d'une certaine manière, la gauche, y compris Jean-Luc Mélenchon, propose des mesures. On en pense qu'on veut. Mais ils disent, pour qu'il y ait plus d'argent à distribuer, on va imposer davantage. Ça fait plaisir ou pas plaisir, mais au moins, il y a une cohérence globale. Dans le cas du Rassemblement National, on verra aussi les explications que donnera Jordan Bardella, probable candidat du RN, quand il nous dit, lui, il veut se faire bien voir du MEDEF, il considère qu'il faut être sérieux économiquement et réduire la dette, les déficits, et en même temps, à part expliquer que miraculeusement, en tapant sur l'immigration, on aura
100 milliards d'économies.
Des économies, mais c'est pas très crédible. Enfin, dès qu'on creuse un peu, ça ne marche pas. Donc, on va avoir le bal des...
Voilà.
On revient à ce qu'on a dit depuis le début de cette émission, c'est l'absence de gouvernement stratégique. C'est-à-dire qu'il y a un moment... Alors, sur l'élection présidentielle, en France, c'est devenu monstrueux. Moi, j'ai écrit il y a longtemps... maintenant, le système présidentiel français, c'est l'élection tous les 5 ans d'un Père Noël impuissant.
Oui, c'est ça.
Père Noël, c'est dans l'année qui précède.
Ce qui est fou, c'est qu'on croit toujours à l'homme président,
une fois élu.
Providentiel.
Il y a même des constitutionnalistes qui sérieusement disent que ça a été une erreur de faire une élection peuple, sachant qu'on a un peuple très particulier.
C'est le régime. C'est-à-dire que dans les autres pays, on y est tous très attachés dans nos sondages. Les gens disent « je suis attaché à l'élection présidentielle, au suffrage universel direct ». Mais dans les autres pays, c'est pas comme ça que ça se passe. Tous les autres pays, les grandes démocraties du monde, fonctionnent avec un système parlementaire où on est bien obligé de ne pas promettre n'importe quoi, où il n'y a pas une personnalisation absolue, et où on sait très bien qu'ensuite il y a des coalitions qui se mettent en place et qu'il faut accepter de part et d'autre de faire des compromis pour gouverner. En France, c'est pas ça. En France, vous regardez la popularité du président, ça monte au sommet dans les quelques mois qui suivent son élection, quelques semaines et quelques mois, et ensuite il est détesté. C'est effectivement le Père Noël impuissant.
Et donc, Pierre-Henri m'étonne par son discours extrêmement politique et consensuel. Bon, moi, évidemment, on peut me dire, t'es pas au pouvoir.
Pour reprendre ta carrière politique.
Voilà. Mais si on réfléchit, il y a un moment, il va falloir dire aux Français, si vous voulez qu'on fasse de la défense, qu'on soit plus souverain,
il y aura des choix à faire.
L'énergie, sur l'agriculture. On le sait depuis des années que l'azote et la potasse, on en a besoin pour l'agriculture. Tout ça, on l'a envoyé à l'extérieur. Donc, il y a un moment, il faut bosser avec les filières, reconstruire des choses cohérentes. Je suis sûr que les Français adoreraient ça, d'ailleurs, si on faisait un travail avec eux, filière par filière. Donc, et il y a un moment, on va être obligé de leur dire, on peut pas avoir le record du monde du poids des retraites dans la dépense publique. Gaël disait, les gens veulent plus de santé. Moi aussi. La question, c'est que la participation des Français aux dépenses de santé, c'est une des trois plus basses au monde.
Le reste à charge, comme on dit.
Le reste à charge est autour de 7% des dépenses de santé, alors qu'il est en moyenne de 15% en Europe, il doit être de 40% aux États-Unis. Là aussi, dire à un moment donné, vous payez au moins 50 centimes sur les boîtes de médicaments, ou 1 euro, ou quand vous allez chez le médecin, vous payez au moins 2 euros, pour que les gens connaissent les prix, puisque... On parlait tout à l'heure de l'impact du système de prix sur les prises de décision.
Et des arbitrages à faire peut-être sur la jeunesse aussi aujourd'hui. Pas moins de 5 ministres sont mobilisés sur l'annonce d'un grand plan pour augmenter l'emploi des jeunes, à la tête desquels les ministres, Jean-Pierre Farandou, évidemment, le ministre du Travail. Ils doivent présenter une quinzaine de mesures en faveur de l'emploi des jeunes. Je rappelle simplement les chiffres. Fin 2025, 21,5% des actifs de 15 à 24 ans étaient à la recherche d'un emploi.
C'est presque
3 points de plus en un an. Et on a 1,5 million de jeunes qui n'ont ni formation, ni job, ni diplôme. Ce qu'ils appellent les NEETs, les fameux NEETs. Que faut-il faire pour traiter ce grand sujet, Pierre-Henri de Menton ?
Alors, c'est effectivement le grand sujet. Il y a Alors, je suis désolé, je fais encore la politique. Il y a un problème démocratique. C'est que ces jeunes-là votent très peu. Hein, je parle du contrôle de Gaël Simon. Donc, ils n'ont pas un poids. Voilà. Mais ce phénomène, nous, on l'observe. Hein, c'est dans toutes les catégories, hein, que vous prenez les étudiants en école de commerce, fils à papa, ou des enfants d'ouvriers, on trouve plus de job. Il y a un phénomène structurel.
À cause de l'IA.
Qui est en train d'arriver, qui est celui-là, en tout cas sur les emplois. Beaucoup d'emplois tertiaires. Hein. Après, on a la robotisation sur d'autres types d'emplois. Donc, on a une sorte de désenchantement et même, j'ai l'impression, ça a dû être quantifié, moindre appétence, on va dire, pour le travail d'une partie de la jeunesse, hein, qui vient sans doute du fait qu'on ne propose pas tellement de jobs qui puissent être... intéressant. Donc je pense qu'il y a déjà un problème politique. Après, il y a quand même beaucoup qui a été fait sur la formation. Hein. C'était une des priorités des deux mandats d'Emmanuel Macron. Donc ce problème, il existe depuis très longtemps, celui des NEET sur la formation. Et là, pour des raisons de contraintes budgétaires, et il y avait aussi beaucoup d'effets d'aubaine, on est en train de revenir en arrière hein, sur des dispositifs.
Sur l'apprentissage notamment,
etc. Donc on est peut-être trop revenu en arrière. Et le gouvernement, voilà, ils sortent 5 ministres et ils vont nous réannoncer des trucs, je pense, autour des petites usines à gaz, qu'on n'a pas beaucoup les moyens de mettre beaucoup de carbone.
Ouais, c'est assez cosmétique, hein, par exemple.
On va vous parler des lycées professionnels, je pourrais presque faire l'affiche. Mais il y a un vrai problème et je pense que le problème, il est politique. Il est, encore une fois, dans une forme de, j'aime pas le mot fragmentation, mais c'est peut-être un peu le cas quand même. Autour de ce problème. Et sachant qu'on a aussi un problème hein, sur l'emploi des seniors, hein, parce qu'on a le même, comme en miroir, à partir de 50 ans, c'est très très compliqué de trouver un job dans ce pays, hein, et ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, notamment en Europe.
Parmi les mesures, il y a notamment cet insert score qui permettra de faire connaître et mettre en avant les métiers d'avenir et les formations où il y a des jobs, combien ça paye. Ça paraît du bon sens hein, qu'on ne l'ait pas encore mis en place, mais très
ça
bien.
Je vais faire mon Pierre-Henri de Menton. Ça a été mis en place à l'université il y a quelques années.
Ils veulent le faire connaître d'ailleurs. Voilà. Hein, c'est mis en place, mais on ne le connaît pas encore. Donc là, le mouvement aujourd'hui, c'est de le faire connaître. Et puis sur le rapprochement, j'étais surpris des jeunes et de l'entreprise. L'accent sera mis sur la santé et la sécurité. Bon, non, voilà l'appréhension de.
En fait, ce qui se passe,
Christian Saint-Étienne.
Les nets, il y en avait avant.
Donc les jeunes sans emploi, sans formation, sans diplôme, ceux qui ont quitté l'école sans rien. Pour faire ça.
Je vais rappeler qu'on a à peu près, grâce aux travaux de l'OCDE, une vision assez claire, on peut en discuter indéfiniment, sur les trois derniers millénaires de l'évolution des systèmes économiques. Il y a eu énormément de travaux faits par l'OCDE. On sait que la France, comme l'ensemble de l'Europe, était très rurale jusqu'en 1850 et qu'il y a eu le développement de l'industrie après. Quand la France était rurale, les nets, ils existaient simplement au moment des récoltes. Ils étaient journaliers, ils allaient bosser. De toute façon, on les laissait pas crever. Il y avait la redistribution par la religion, par les communautés, ainsi de suite. Voilà. Donc la question, c'est dans le monde industriel dans lequel nous sommes entrés depuis 50 ans avec la globalisation, qui est un monde extrêmement compétitif, auquel se rajoute la désindustrialisation massive du pays depuis 25 ans, les nets qui étaient intégrés dans le monde rural pendant des siècles, puis qui trouvaient des petits boulots dans le monde industriel qui était en développement rapide parce qu'ils bossaient la gestion de la logistique, ils chargeaient les camions, ainsi de suite. Tous ces boulots ont disparu. Hein. Et donc, maintenant, même les travaux intellectuels vont être remplacés en partie par l'intelligence artificielle. Donc, dans ce contexte...
Donc, qu'est-ce qu'on fait ?
Dans ce contexte, je suis désolé, je reviens, c'est peut-être technique, je m'en fous. Si on fait pas un boulot colossal sur les filières, on sait par exemple que les plombiers qui sont bons, ils gagnent trois fois ce que gagne un type qui travaille, qui est administratif dans une collectivité locale. Par exemple, j'ai proposé, mais effectivement, je ne suis pas au pouvoir, mais dans la préparation d'une présidentielle, le boulot des experts, c'est de faire des propositions. Après, c'est retenu, c'est pas retenu, oui. C'est pas le sujet. Mais je pense notamment que dans une vision de réindustrialisation du pays où on travaillerait avec toutes les filières, parce que l'industrie aujourd'hui a beaucoup évolué, même la logistique, c'est une activité industrielle, même la banque et l'assurance, tout ce qui en fait fonctionne avec des ordinateurs dans la nouvelle révolution industrielle peut être assimilé à l'industrie. Donc si on faisait un gros travail de planification avec les filières, je pense que c'est un moyen d'abord de redire aux jeunes, vous avez une place, mais dans le ministère de l'industrie qui ferait ce boulot, moi je bascule toute la formation professionnelle pour en refaire une formation d'excellence comme en Suisse. Voilà.
Donc, et donc, savoir académique,
je rappelle que la Suisse, ouais, qu'on imagine toujours avec des vaches, en fait, a une industrie manufacturière qui fait 20 points de PIB, oui, alors que nous on est tombé à 9,5.
Des formations professionnelles bien plus développées.
Et en plus, là-bas, la formation professionnelle, c'est une formation d'excellence.
Oui.
Donc on a bien fait, comme l'a rappelé Pierre-Henri de Menton sous Macron, un plus sur la formation professionnelle, mais on n'en a pas refait une formation d'excellence.
Merci, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois, Christian Saint-Etienne, Pierre-Henri de Menton et Gaël Slimane pour cette émission passionnante.